Écoutez, voir.
Écoutez, voir.
Une chronique hebdomadaire proposée par Marie Rouanet.
La chambre verte. Même si l'hiver a été doux et les rosiers longuement en fleurs, quelque chose a changé. Dans la qualité de la lumière, dans les couchants roses et bleus, n'en doutons plus. Le printemps va éclater. Les premiers à frémir furent les saules. Il en existe beaucoup dans ce pays, près des sources ou des haies humides. Ils ont longtemps servi à la vannerie. Leurs longs rameaux flexibles s'y prêtent. Des paniers en osier non pelé d'un beau rouge qui brunit avec le temps, des corbeilles à linge en osier pelé, il en existe encore dans toutes les maisons. On en trouve sur les marchés de pays de fabrication artisanale parfois, solides, ne craignant que les charançons. Ils sont chers mais d'une beauté parfaite. On en trouve aussi de pâles imitations venues du bout du monde. Dimanche, en promenade solitaire, sur un chemin élevé, à hauteur de Montaigu, j'avais sous les yeux la plaine du Camarès, verte en cette saison. Le silence était tel que j'entendais les moteurs les plus lointains, tout mouvement d'oiseaux, mais pas sur le gravier, les rumeurs du stade où se jouait un match. Et de si loin, tous les sons devenaient bénins. Peu de feuillage roncier. Rien sur cet arbrisseau à très longues épines que mon père transformait en fourchette à escargot. Rien encore aux arbres. Chênes, merisiers, châtaigniers imprimaient leurs ramilles nues sur le ciel pur. Seul un saule, puis un autre un peu plus loin, avaient sorti leurs chatons gris-souris en velours brillant et ils ornaient les branches. Seul un saule, puis un autre, un peu plus loin, avait sorti leur chaton gris-souris, en velours brillant, et ils ornaient les branches rougissantes de sève. Parmi les nombreuses variantes de l'arbre, le saule dit pleureur me séduit. J'en salue quelques-uns sur ma route vers Sainte-Afrique et Millau. Ils sont des anémomètres parfaits, avec leurs branches qui indiquent la force et la direction du vent. De la tempête à la moindre brise. Depuis le tronc qui les porte jusqu'au sol qu'ils caressent, les sillons forment une bulle d'air. Il suffit de les écarter comme on le fait des rideaux à lanières de l'été pour pénétrer dans la chambre verte. C'est une pièce confortable. On peut s'y tenir à plusieurs ou seul, s'asseoir le dos contre le tronc, ou s'allonger au sol. De l'extérieur, on ne voit pas très bien ce que contient la chambre. De l'intérieur, on voit tout ce qui se passe dehors. Voir sans être vu, jouir du paysage sans un cadre de fenêtre, c'est mieux qu'une vitre sans teint. Être enclos sans être barricadé, être un spectateur invisible, quel rêve de curieux. Ne pas être vu, quel rêve d'amant. J'ai connu et fréquenté une seule chambre verte. Elle se trouvait dans un square public, sur le chemin du lycée où j'enseignais. Il me vint à l'idée de venir m'y asseoir avec un petit casse-croûte, à la pause de midi. Je m'aperçus vite que certains élèves, désertant la cantine, venaient là eux aussi. Si la place était prise sous l'arbre, d'un accord tacite, personne ne dérangeait les occupants. Trois ou quatre adolescents pouvaient s'y tenir. Il en venait alors un murmure de volière. Le plus souvent, c'était un couple qui en faisait une chambre d'amour. Libérés des regards, gardés dans le secret des branchages, ils s'étreignaient et se murmuraient à l'oreille ce chant d'amour qui viennent du fond des âges. En dehors des moments scolaires, dans ce coin de paradis, je trouvais souvent une seule personne, un homme ou une femme, installée avec à portée de main tout le matériel nécessaire pour passer le temps. Livres, mots croisés, tricots, boissons, friandises à grignoter. Que trouvait-il là ? Était-ce seulement l'abri ou quelque chose de plus subtil ? Rompre avec la solitude, la monotonie de la maison, tuer le temps, si lourd parfois, lorsqu'on vieillit seul, regarder le mouvement, assister à quelques incidents. Une fois, je trouvais la chambre verte occupée par une dessinatrice. J'aurais été curieuse de voir de quelle manière elle avait rendu la fontaine, la vasque où l'eau s'écoulait. Avait-elle lâché son dessin des zébrures, des longues branches ? À un moment, il avait fallu qu'elle s'arrache au très petit volume de fraîcheur et qu'elle pénètre dans la canicule pesante sur ce qu'elle venait de dessiner. Mieux qu'une acclimatisation, meilleure que l'ombre des arbres, joliment bruissante et frémissante, la chambre verte me fut grotte sans roc, sphère d'eau sans vase, posée au centre du monde. Elle m'a protégée des pluies fines. Le vent du nord, qui parlait à voix furieuse, relevait ses branches jusqu'au ciel. Puis, elle retombait. Et j'étais à nouveau voyante et invisible dans la chambre verte.